Bonjour à tous, bienvenue en ce dernier dimanche de l'année 2020. Cette année a été particulière sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est vrai que quand on se souviendra de cette année 2020, qui est déjà entrée dans l'histoire, on aura certainement un autre regard si aujourd'hui nous considérons la fidélité de Dieu. C'est vrai que dans tout ce que nous avons pu vivre, Dieu a toujours été fidèle. Dans les épreuves, on a du mal souvent à le dire, à le confesser, à confesser l'amour de Dieu. Mais si nous sommes là, c'est justement parce que Dieu est fidèle. Et il ne change pas, il ne changera jamais. Je me dis en ce dernier culte, je me souviens de quelques paroles que notre sœur Lucienne avait apportées de mémoire au moins 3 fois. Et cela disait à peu près ceci, les temps qui arrivent vont être difficiles. Mon peuple, tiens bon. Mes enfants, je vous aime, ne lâchez pas ma main. Et pour moi aujourd'hui, ces paroles font une forte résonance parce que je me dis, je ne sais pas de quoi 2021 sera fait, mais si je ne lâche pas la main du Seigneur, alors j'arriverai, alors l'Église de Jésus arrivera. Dans l'Évangile de Jean, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière du monde et celui qui le suit ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière parce que la lumière est en lui. Le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors que ce dernier culte, apportons toute notre louange, la louange de notre cœur au Seigneur. Vivons cette louange de manière exceptionnelle, à année exceptionnelle, louange exceptionnelle. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Frères et sœurs, louons-le de tout notre cœur. Élevons le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Merci pour la croix. Merci Seigneur parce que nous sommes là aujourd'hui. Merci Seigneur parce que, oui, tu es fidèle, tu es amour. Et Seigneur, nous voulons vivre ce culte, Seigneur, pour élever ton nom, pour honorer ton nom, parce que tu en es digne. Toi seul es digne de recevoir, Seigneur, notre adoration, notre louange. Alors Seigneur, viens couronner par ton esprit ces moments. Seigneur, que ce soit un parfum agréable qui monte devant ton trône. Et Seigneur, que cette louange te plaise et qu'elle libère. Tu connais, Seigneur, la situation de chacun. Tu sais, Seigneur, quels sont ceux qui sont fatigués. Seigneur, tu es celui qui renouvelle les forces. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont malades. Tu es celui qui guérit. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont découragés. Seigneur, tu relèves le faible. Seigneur, nous voulons ensemble, d'un même cœur, te dire combien nous t'aimons. Et Seigneur, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Et Seigneur, combien, Seigneur, nous voulons encore te faire confiance pour les jours, les semaines, les années à venir, afin que ton Église puisse briller, afin que nous soyons ce sel et cette lumière pour le monde qui aujourd'hui souffre, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Amen.
Il y a une église qui est prête à le louer. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes
chaud, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Élevé,
élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Élevé.
Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui donner une ovation? Il est grand, il est digne. C'est notre Dieu, il est puissant. Alléluia.
De mystère, c'est le roi de gloire, il est
le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Digne est l'agneau immolé, le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Encore.
Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, et le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, nous t'adorons Père, nous voulons te dire que nous t'aimons. Oh Seigneur, même si cette année a été compliquée, difficile, nous ne faillirons pas parce que c'est toi notre Seigneur, parce que c'est toi notre Maître. Nous voulons t'adorer, te louer et nous continuerons ici à l'épi de t'adorer, de te louer, d'élever une louange Seigneur qui soit digne de toi. Gloire à toi, nous sommes éblouis par ta beauté, éblouis par qui tu es.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près.
près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter.
Il me semble que dans la vie chrétienne, quelles que soient les difficultés, celui qui est à côté de nous au quotidien c'est le Saint-Esprit. Peut-être ce matin, réalisons que l'Esprit du Dieu vivant, non seulement est à côté de nous, mais il vit en nous. Et ça signifie que, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos fragilités, c'est lui qui opère. Je voudrais qu'on prenne ce chant en pensant à cet Esprit Saint, ce souffle de vie, celui qui est la source de nos ressources, celui qui est notre bouclier. On dit dans la parole qu'il est notre paraclète. Il est celui qui nous soutient. Et il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Souffle de vie. Souffle sur nos vies. Souffle sur nos vies. Souffle sur notre Église. Alléluia.
Souffle de vie, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Souffle de Dieu, viens changer nos vies par ta force, par ta grâce.
Vivifie-nous, Esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit, descend et conduis-nous. Souffle de vie, répands tes eaux vives dans nos cœurs, dans nos âmes. Souffle de feu, viens brûler en nous, ranime nos âmes pour te louer. Vivifie-nous, Esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit, descend et conduis-nous. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit, descend et conduis-nous.
Cette même attitude, encore honorer la place du Saint-Esprit dans nos vies et dire nous voulons être un peuple embrasé.
allons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre, comme au ciel.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu,
quatre vents et descends sur nous.
Seigneur encore. Sa grâce réellement ne faillit pas. Sa grâce est toujours opérante et nous sommes au bénéfice de cette grâce. Est-ce qu'on peut encore une dernière fois acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Alors merci au groupe, merci à Wilson, à Joël, à Jonathan, à Nathaël et à Gaudi. Merci pour ce moment que nous avons passé. Alors si vous voulez contacter l'Église pendant toute cette période, vous avez deux possibilités, soit aller sur le site, en fait le mail, c'est contact@epi-strasbourg.eu. Vous avez aussi le numéro de téléphone portable, le 06 28 13 58 51. Pour participer aux différents cultes, en fait, il faut réserver vos places sur le site jusqu'au samedi midi. Alors, pourquoi samedi midi? C'est une question d'organisation. Pour ceux qui sont dans la salle, ils réalisent tout ce que ça peut impliquer comme organisation. Et enfin, la dernière annonce, c'est si vous voulez continuer à soutenir l'EPI. Donc, vous avez des troncs, il y a un à la sortie et l'autre à l'entrée. Si jamais vous avez oublié, vous pouvez vous rattraper à la sortie. Il y a aussi le site, donc le www.epi-strasbourg.eu. En parlant vraiment des annonces, des offrandes que vous faites, un grand merci pour votre fidélité tout au long de l'année. Nous sommes conscients que l'année a été difficile. Elle a été très difficile et quand on voit ce que vous avez continué à donner, c'est très touchant. Ça montre votre fidélité et aussi nous bénissons le Seigneur pour tout ce que vous faites. Et pour, avant d'introduire ce moment, vraiment, j'aimerais qu'on prie ensemble. Donc pour tout ce que vous avez donné, pour qu'il y ait toute la sagesse nécessaire, que le Saint-Esprit continue à guider ceux qui ont la charge de la gestion, le conseil d'administration en particulier, et surtout notre trésorier fidèle, Freddy, et toute sa famille. C'est une charge de gérer tout ce qui a été donné. Une charge parce que c'est un investissement personnel énorme. Il a beau être à la retraite, mais c'est très prenant. Il a été fidèle pendant combien? 38 ans? 34. Beaucoup dans cette salle n'étaient pas encore nés. Alors, je vous invite qu'on prie ensemble aussi. Prions aussi pour ceux qui ne peuvent pas donner, parce qu'ils sont dans des situations compliquées, difficiles. Prions pour ceux qui ont peur pour leur entreprise, ceux qui ont peur de perdre leur emploi. Prions ensemble pour que le Seigneur nous garde dans sa paix, qu'il pourvoie aux besoins de chacun. Amen. Alors Seigneur, nous te bénissons vraiment pour ta fidélité que tu as montrée en l'égard de notre assemblée. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Et tu as permis, Seigneur, que tout au long de cette année, qu'il y ait encore, oui, la fidélité dans les dons, dans les offrandes. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu as pourvu. Tu as béni, et des frères et sœurs ont aussi béni la communauté en retour. Seigneur, nous voulons les bénir tous. Nous bénissons aussi, Seigneur, tous ceux qui ne peuvent pas donner. Seigneur, merci de pourvoir. En ces temps difficiles, sombres, Seigneur, que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit vienne mettre en chacun d'entre nous, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, que la peur, Seigneur, fasse place à ta joie, fasse place à ta paix. Seigneur, que nous puissions illuminer de ta grâce, comme nous l'avons chanté. Seigneur, te prions aussi de bénir Freddy et sa famille. Seigneur, que tu poses, Seigneur, ta main. Seigneur, tu n'es pas un Dieu ingrat, tu es un Dieu fidèle qui se souvient, Seigneur, de ceux qui t'ont donné. Alors, Seigneur, nous les bénissons aussi en retour. Seigneur, que sa maison, Seigneur, soit remplie de ta joie. Seigneur, que les descendants puissent se souvenir que oui, nous avons eu quelqu'un dans notre famille qui a servi Dieu et nous bénéficions de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Nous prions aussi pour le conseil d'administration qui en charge la gestion de tous ces fonds. Que l'esprit de sagesse, Seigneur, repose sur chacun. Seigneur, que tu leur donnes aussi, Seigneur, à chacun la paix. Seigneur, lorsqu'ils interviendront, lorsqu'ils discuteront des différents projets, Seigneur, que ce soit ton esprit qui guide toutes choses. Seigneur, que ce soit l'unité de ton esprit. Seigneur, maintenant, te prions d'oindre, Seigneur, Michel, Seigneur, de l'onction nécessaire pour que, Seigneur, ce qu'il a apporté ce matin soit pour chacun une nourriture qui nous fasse, Seigneur, du bien. Seigneur, si nous devons être repris, que nous soyons repris, Seigneur. Seigneur, nous avons simplement besoin d'une chose, c'est de te connaître plus, de t'aimer plus, Seigneur, d'être encore plus près de toi. Alors, Seigneur, que ton esprit puisse agir, puisse, Seigneur, reprendre, renouveler, fortifier, libérer, guérir pour le bien, Seigneur, de ton Église. Amen.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Thierry, merci au groupe de louanges, merci à la technique, à l'équipe d'accueil, à l'équipe des sanitaires, merci à chacun. Je crois que cette fin d'année est l'occasion d'être vraiment reconnaissant pour chacun et chacune d'entre vous, en particulier pour vous qui êtes au service de tous et qui prenez du temps, de votre disponibilité pour servir l'Église, pour servir les uns et les autres. Un grand, grand merci. De la part de toute l'équipe pastorale, on essaie d'être au plus près des besoins, essaie d'accompagner chacun et chacune. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours au point, mais en tout cas, notre cœur est là auprès de l'Église pour que vous puissiez les uns et les autres être accompagnés dans votre besoin. Nous terminons ce dernier dimanche de l'année 2020 avec cette série, un regard ou un autre regard sur Noël, avec aujourd'hui la visite des mages. Après le regard de Marie, le regard de Joseph, des bergers, nous terminons cette série par le regard que portent les mages sur la personne de Jésus. Alors, rappelons peut-être simplement que la Bible n'est pas seulement destinée pour notre information, mais son message est destiné et vise tout particulièrement la transformation de nos vies. Et qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, à chaque fois que nous prenons en main ce livre de vie, ce livre de Dieu, eh bien, pensons que Dieu veut travailler dans nos vies et travaille à la transformation de nos vies. Noël, vous le savez, est entouré de féeries et d'images populaires, parfois bien écartées du récit biblique. Et on va donc essayer de faire le tri en nous attachant au message autour de Noël, au message, mais aussi à son application pour chacun d'entre nous. Le thème de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu est écrit pour des Juifs et la thématique de cet évangile de la part de Matthieu, c'est « Voici ton roi ». Matthieu au chapitre 2 et on va lire à partir du verset 1er. Matthieu 2, du verset 1er jusqu'au verset 12 et je lis dans la version second 21. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, qui sont ces mages et d'où viennent-ils? Matthieu ne nous donne ni le nombre, ni leur nom. En grec, ce sont des magoi, c'est-à-dire des sages, des mages. Ce sont des conseillers. Ils ont étudié l'astronomie, l'histoire, la philosophie, la théologie, la science. Dans le livre de Daniel, ils sont dans la cour du roi. Ils entourent le roi et aux côtés, par exemple, de Nebuchadnezzar. Ils font partie des personnes les plus influentes de la société persane. Et Daniel est même leur chef dans Daniel au chapitre 2. Nous ne savons pas exactement d'où ils viennent. La Bible dit qu'ils viennent d'Orient, de l'Est. Il y a plusieurs avis sur la question, mais la plus grande partie des commentateurs bibliques nous disent qu'ils viendraient de Babylone, c'est-à-dire de la région de Bagdad. Ces personnages qui viennent à la rencontre de Jésus nous délivrent un premier message. Après avoir parlé de Marie, de Joseph, des gens modestes, après avoir parlé des bergers, qui étaient aussi des gens pauvres, des gens modestes, voici des visiteurs qui viennent de loin. Ce sont les bergers donc qui sont les premiers à voir Jésus et à lui rendre hommage et à louer le Seigneur et à adorer Dieu pour leur sauveur, leur Messie, leur Seigneur. On trouve le texte dans Luc au chapitre 2 et le pasteur Raymond Pierre nous en a abondamment parlé. Les bergers qui étaient donc de condition modeste. Les mages, eux, font partie de l'élite de la société et on les trouve dans le palais. Et donc le message ici de la bonne nouvelle est destiné à tous les hommes, quelle que soit leur condition sociale, économique, culturelle, ethnique. Dieu ne fait exception de personne. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour tous les hommes. Et Dieu ne fait exception de personne. Et cette bonne nouvelle, elle est aussi pour toi ce matin. Ne te sens pas exclu. Ne crois pas que tu sois oublié de Dieu. Dieu n'oublie personne. Ça, c'est le message. Dieu n'oublie personne. L'évangile n'est pas seulement pour les enfants. Il n'est pas seulement pour les papis et les mamies. Au soir de leur vie, l'évangile est pour tous les hommes. Et quand je dis hommes, c'est aussi les femmes, bien sûr, tout un chacun. Le Nouveau Testament présente d'ailleurs un panel d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée au contact de Jésus. Par exemple, des pêcheurs professionnels, des fonctionnaires, des ouvriers agricoles, des militaires, des personnels pénitentiaires, des gouverneurs, des chefs d'entreprise, des personnels soignants et des politiques. Et pas des moindres, il y a eu les zélotes. Les zélotes étaient un parti extrémiste. Dieu est capable de sauver même des extrémistes. Extraordinaire. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. C'est à nous de l'accueillir. Et ce matin, je vous invite à accueillir l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que celui qui croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors avec la visite des mages, moi je vois trois postures, trois attitudes les concernant et qui peuvent devenir pour nous ce matin aussi des modèles, des attitudes à intégrer pour notre vie spirituelle. Première posture, première attitude, ces mages sont en recherche. Ils sont en recherche. À un moment ou un autre de notre vie, nous sommes tous en recherche. J'ai assisté à la naissance de mes 4 enfants et ce qui m'a frappé, c'est que dès que l'enfant est sorti du sein de sa mère, du ventre de sa mère, il cherche le contact avec la maman, il cherche la chaleur et il va chercher le sein. Dès la naissance, on est en recherche. Et ça se poursuit à l'adolescence, on cherche qui on est, on cherche où on va, on cherche un sens. Les psys appellent ça la quête du sens. Peut-être que vous êtes en recherche ce matin. Vous êtes au bon endroit. Parce que le Seigneur vous cherche aussi et il va vous trouver. Ils sont en recherche. Aucun communiqué de presse, aucune annonce officielle d'une naissance royale n'est mentionnée. Les mages observent le mouvement des étoiles, sont des astronomes aussi, et ils ont une intuition. Comme nous pouvons aussi dans nos propres vies avoir une intuition. Mon frère Rolf a écrit une chanson dans laquelle il dit « La nostalgie du chaud pays est gravée dans nos cœurs ». Et nous sommes tous à la recherche de qui nous sommes. Les mages ont donc observé le mouvement des étoiles, ils ont cette intuition qui est confirmée par une rumeur dans le monde, une rumeur publique. Qui dit qu'un roi important va naître. Ils connaissent les textes bibliques, entre autres, ils connaissent la Torah. Et dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, il y a le livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17, qui parle d'une étoile à naître. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Un astre, c'est une étoile. Le sceptre, c'est un insigne royal. Et ce texte a été écrit 12 siècles avant la naissance de Jésus. On a chanté tout à l'heure que Dieu était grand. C'est vrai que Dieu est grand. Il est l'Éternel. Il est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Toute l'histoire de l'humanité est devant lui. Il n'y a pas de secret pour lui. Il est en contrôle du temps, il est en contrôle de l'histoire et son plan se déroule. Il met en œuvre son plan pour toucher tous les hommes et leur permettre d'être sauvés et de connaître l'amour de Dieu pour lequel nous avons été créés. Il a de l'avance, il est omniscient, il sait tout, il voit tout. La Bible dit qu'il fait toutes choses belles. En son temps. Et je parle peut-être ce matin à quelqu'un qui est en train de trépigner, en train de chercher sa voie. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Courage, patience, persévérance. Les mages ont certainement lu aussi les écrits de Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel qui avait prophétisé, le moment exact de la venue du Messie. Alors ils se disent qu'un roi ne peut naître que dans un palais. Alors ils sont mis en route vers Jérusalem. Leur logique les a conduits jusque-là, où ils vont se renseigner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Puis au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ces hommes sont sincères dans leur recherche et dans leur démarche. Et ils viennent de manière intentionnelle. Mais si ce matin, nous sommes sincères devant Dieu, et nous avons cette intention de trouver le sens à notre vie, de chercher Dieu aussi, nous allons le trouver. À son peuple, Dieu dira, à un moment donné, au 5e siècle, il fait cette parole forte au travers de Jérémie, au chapitre 29, verset 13, il dira, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et votre recherche du sens de Noël, ou derrière la recherche du sens de Noël, c'est peut-être vous-même que vous cherchez. Un jour, j'ai eu la joie de baptiser une psychanalyste. Alors, je l'ai accompagnée pendant un certain temps. Ça n'a pas été facile comme accompagnement parce que ces gens réfléchissent beaucoup et il faut essayer de les suivre dans leur parcours et dans leur questionnement et dans leurs questions. C'est pas simple. Et le jour est arrivé où cette femme a rencontré le Seigneur. Et le jour de son baptême, elle a voulu témoigner publiquement de sa foi en Jésus-Christ. Et au moment de rendre témoignage, elle nous a fait cette déclaration qui est remarquable. Elle nous disait « Je me cherchais et je ne me suis pas trouvé. J'ai trouvé Jésus et je me suis trouvé. » J'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est vrai, c'est la vérité. Le jour où on trouve Jésus, le jour où on est en relation personnelle avec Dieu comme notre Père, nous savons vraiment qui nous sommes. Dieu devient notre Père, il nous donne notre véritable identité. Alors bien sûr, Dieu ne répond pas à l'arrogance intellectuelle ou à l'arrogance athéiste, mais il répond à l'intégrité intellectuelle et à la sincérité de notre cœur. C'est Mark Twain, l'écrivain, qui a dit un jour « Les deux jours les plus importants de notre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Je lui donne raison. Les mages vont avoir besoin de la parole de Dieu. Ils ont cette étoile qui va les guider, ils ont cette intuition au travers de leurs recherches, de leurs études, de leurs analyses, mais ils vont avoir besoin de la parole de Dieu pour les emmener dans la bonne direction jusqu'à Bethléem, jusqu'à leur destination. Et alors là, il y a une leçon aussi pour chacun d'entre nous, c'est que quel que soit le moyen dont Dieu va se servir pour nous attirer à lui, un moment ou un autre, c'est la parole de Dieu qui va faire la différence et qui va venir nous rejoindre. Les moyens employés par Dieu, aussi extraordinaires qu'ils soient, ne pourront pas à eux suffire. Il nous faudra faire attention à ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible, pour nous permettre de rencontrer la parole vivante, son fils Jésus. Un père de l'Église avait dit ceci, « Il n'y a pas de chemin vers Dieu sans le Christ de Dieu. Il est la parole vivante. » Et Jésus lui-même dira au cours de son ministère, en parlant du règne de Dieu, puisque Jésus est roi, en parlant du règne de Dieu, dira « Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est dans Matthieu chapitre 7 et au verset 7. Donc ces mages sont pour nous un exemple avec cette posture de recherche. Si vous êtes en recherche ce matin, vous allez trouver. Vous allez trouver celui que vous cherchez et vous allez trouver les réponses à vos questions. Et celui qui répond entièrement et parfaitement aux besoins de ma vie intérieure, c'est le Christ. C'est le Christ. Deuxième posture, deuxième attitude, c'est qu'ils sont venus avec l'intention d'adorer. Ils le disent, nous sommes venus pour l'adorer. Et là, il y a toute une direction pour chacune de nos vies. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. On peut même s'adorer soi-même. Il suffit de voir un petit peu tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui pour voir que l'homme est un adorateur. Mais s'il n'adore pas Dieu, il va adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre. d'autres. Ce récit nous place devant un paradoxe, devant une contradiction. C'est que ceux qui étaient les mieux placés pour reconnaître et honorer leur Messie n'ont pas pris la peine de se déplacer, ne serait-ce que de quelques kilomètres, pour vérifier une rumeur qui troublait tout Jérusalem. Ceux qui connaissaient les textes bibliques et qui savaient qu'un roi devait naître ont laissé passer l'événement le plus important de l'histoire. Par contre, ceux qui sont le plus éloignés, de plus des étrangers, sont ceux qui l'ont adoré et ont attesté sa royauté. Parce que parmi leurs attributions, ces mages étaient là au moment de l'installation des rois et venaient confirmer, appuyer la royauté. Et leur déplacement signifie qu'ils attestent, qu'ils viennent confirmer et accompagner cette naissance de tout leur poids, parce que ce sont des gens influents. Les mages ont parcouru environ 1 000 000 de kilomètres, depuis Babylone jusqu'à Bethléem, Bagdad jusqu'à Bethléem, ça fait à peu près 1 000 000 de kilomètres. Mais quand on pense aux conditions de voyage, quand on pense à la chaleur, à la distance, à la poussière, à la fatigue, à dos de chameau, on se dit que cela représente un véritable sacrifice. Et je crois que adorer Dieu, c'est un sacrifice. On donne de sa personne, on donne de soi-même, et on est là devant Dieu. La première fois que le mot « adorer » est employé dans la Bible, c'est dans Genèse, au chapitre 22, et au verset 5. C'est Abraham qui adore Dieu. Et lorsqu'il adore, il dira à ceux qui sont avec lui, « Restez ici, nous, avec son fils, nous irons jusque-là. » C'est quelque chose qui est frappant. « Nous irons jusque-là pour adorer. » Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour adorer Dieu ? Notre frère Thierry nous a rappelé que nous terminons une année difficile et compliquée à tout point de vue. Mais le peuple de Dieu reste dans une attitude, dans une posture d'adoration. Nous avons confiance en notre Dieu. Il ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous. Il l'a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est déjà une raison suffisante pour l'adorer. Nous l'avons adoré ce matin et nous voulons continuer de le faire. Nous irons jusque-là, nous traverserons les moments difficiles. Moi, j'étais particulièrement touché ces dernières semaines par la posture, l'attitude de notre jeunesse. Vous savez que tous les matins, à 6h30, ils ont été encouragés par Anne. Et autour d'elle, avec une petite équipe, Manon et d'autres, ils se sont retrouvés tous les matins à 6h30 sur la plateforme Zoom pour un temps de lecture de la Bible et un temps de message et un temps de prière. 6h30. Ils sont allés jusque-là. Certains étaient peut-être encore en pyjama, mais qu'importe, ils étaient là à 6h30. Et ils priaient pour l'Église, ils priaient les uns pour les autres, ils priaient pour les besoins, ils louaient le Seigneur, ils remerciaient Dieu, parce qu'en dépit de la situation, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Alors il y a beaucoup de mystères autour de cette étoile qui a guidé les mages. Sur les cartes de Noël, on voit que cette étoile est à 1,50 m au-dessus de la tête des mages. Ça c'est encore de l'imagerie. La réalité est un petit peu plus compliquée. Elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Et c'est un petit peu comme ça aussi dans nos propres parcours, n'est-ce pas ? La vie n'est pas un fleuve tranquille, mais il y a des méandres. Il y a des détours et des contours et on ne sait pas toujours où on va. Et certainement, durant leur parcours, ils ont vu cette étoile, puis elle disparaît, puis elle réapparaît. C'est incroyable. Mais Dieu est fidèle. Ne baisse pas les bras. Garde confiance. Courage. Il te mènera jusqu'au bout. ce n'était pas n'importe quelle étoile. Beaucoup de pères de l'Église pensaient qu'il s'agissait d'une manifestation surnaturelle et que Dieu avait envoyé un ange pour les guider. Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés à destination. Et Dieu va te faire arriver à ta destination. Ce pourquoi tu as été destiné, Dieu va être fidèle pour t'y conduire. Charge à nous de dire, Seigneur, je veux que tu le fasses. Je veux accueillir ton plan pour ma vie. Je veux accueillir ce que tu veux me dire et ce que tu veux faire de ma vie. Dieu a des moyens et des ressources pour nous conduire à notre destination. Ce matin, encore en réfléchissant à ce message, je pensais à la manière dont les uns et les autres sont venus à la foi en Jésus-Christ. C'est assez incroyable. Il y a quelques années, un de mes collègues avait changé de numéro de téléphone. C'était avant les portables. Ça n'existait pas encore. Il avait un téléphone fixe. Et il avait changé de numéro et son numéro avait été donné à une dame. Et les chrétiens de l'Épi téléphonaient à ce collègue et à chaque fois, cette dame répondit ou répondait au téléphone et dit « Non, je ne suis pas monsieur Intel, non. Mais la manière dont les chrétiens appelaient cette femme avait fait un certain effet, au point que cette dame se dit « Il faut que j'aille voir ce qui se passe là dans cette église. » Elle est venue à l'Épi, et vous savez quoi ? Elle s'est convertie à Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Dieu, et on a eu la joie de la baptiser. Aujourd'hui, elle est décédée. Mais quel parcours ! Dieu a des moyens que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas. Il n'est jamais à court de ressources pour te faire arriver là où tu dois arriver. Donc, confiance. Il est fidèle. Les mages ont suivi, au fond, les traces d'Abraham qui est sorti de Mésopotamie pour se rendre dans la terre promise à Canaan. Ils empruntent exactement le même chemin. Abraham, qui est le précurseur de la foi, le père de la foi, qui est aussi notre modèle en matière de foi. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir s'il était prêt à faire pour lui ce qu'il était prêt à faire pour les dieux quand il était en Mésopotamie, le texte nous dit qu'Abraham a obéi. Et lorsque Dieu va lui parler, il va lui dire « Tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé l'obéissance. » Et je me dis ce matin, y a-t-il quelque chose que tu refuses de faire pour Dieu ? Ou que tu refuses à Dieu ? Peut-être une obéissance, peut-être une disponibilité, que sais-je ? Parce que adorer Dieu, c'est plus que des mots, des paroles, ce sont des actes. C'est plus que de la belle musique et du chant et de la louange. Ce sont des actes. Arrivés à destination de leur voyage, les mages entrent dans la maison. Alors, cela montre que Jésus avait déjà grandi. Ils ne sont pas dans l'étable, comme on peut parfois le voir sur certaines cartes de Noël. Mais ils sont dans une maison. Et tout porte à croire que Marie et Joseph s'étaient sentis bien à Bethléem et habitaient donc dans une maison. Jésus est appelé le petit enfant, il n'est plus appelé bébé. Et lorsque Hérode va se renseigner sur la période qui correspondait, on pense que ça peut aller peut-être jusqu'à 2 ans, que Jésus pourrait avoir entre quelques mois et 2 ans. C'est simplement confirmé par le propos de Hérode. Tous les enfants en dessous de 2 ans, il a donc donné l'ordre de les tuer. C'est un roi cruel et méchant. Ces mages nous donnent une leçon de foi et de persévérance qui honore Dieu. Le commentateur J.C. Ryle écrit ceci. Les mages croyaient dans le Christ avant de le voir. Mais ce n'était pas tout. Ils croyaient en lui lorsque les religieux restaient incrédules. Ils croyaient en lui lorsqu'ils le virent.
petit enfant sur les genoux de Marie. Et ils se prosternèrent devant lui comme devant un roi. Ils n'avaient vu aucun miracle pour les convaincre. Ils n'avaient reçu aucun enseignement pour les persuader. Ils ne purent observer aucun signe de divinité, de grandeur. Et pourtant, devant ce petit, ils crurent voir le divin sauveur du monde et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Le mot « adorer » qui est utilisé ici par Matthieu, « proskuneo », veut dire « s'incliner, se courber, s'agenouiller ». Ce terme décrit l'hommage rendu à un roi. C'est ainsi qu'on honorait le roi par cette attitude d'inclinaison, par cette courbure. Ce terme décrit donc l'attitude qu'on a devant un roi. Et finalement, leur posture montre qu'ils avaient une haute opinion, un profond respect pour la personne de Jésus. Et je me pose la question ce matin, quelle opinion avons-nous de la personne de Jésus? Quelle importance Jésus a-t-il pour moi? Il n'est plus le petit bébé de la crèche, le petit Jésus. Derrière la personne de Jésus, ces mages discernent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tel que le révèle le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas le livre des catastrophes, mais Apocalypse veut dire révélation. Il révèle Jésus. Qui Jésus est réellement? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, je crois que notre adoration sera toujours proportionnelle à l'idée que nous nous faisons de la grandeur de Dieu. Toujours. Plus mon Dieu est grand, et plus mon adoration sera grande. Jésus a vraiment une place prééminente, une place centrale ici dans ce texte. C'est lui qui reçoit l'adoration, non pas les parents. Marie l'a aussi adoré. Et Jésus est aussi le sauveur de Marie. D'ailleurs, quand elle va apprendre qu'elle va être enceinte, elle va voir ce magnifique cantique, qu'on appelle d'ailleurs le Magnificat. Et dans ce cantique, dans ce chant, inspiré par le Saint-Esprit, elle dira « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Un mot sur les cadeaux qui ont été offerts. Il s'agit de cadeaux de grande valeur, cadeaux de qualité, là encore, qui témoignent du respect des mages pour la personne de Jésus. C'est le genre de cadeau qu'on offrait à des rois. Et par leurs gestes, ils attestent, comme je le disais tout à l'heure, que Jésus est roi et qu'il va régner. Il y avait dans ces cadeaux de l'or. Depuis l'Antiquité, c'est le métal le plus précieux et c'est le métal le plus cher. Et dans la symbolique biblique, l'or représente la divinité. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. L'or est réservé à Dieu. D'ailleurs, dans la construction du temple, dans la construction du tabernacle, toutes ces constructions où Dieu est présent, il y avait de l'or. Il y a l'encens. C'était une résine à partir de laquelle on faisait un parfum, qui était destiné aux prêtres, aux sacrificateurs, ceux qui étaient des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et lorsqu'ils officiaient, eh bien, ils faisaient brûler de l'encens. Certains y voient l'image de la prière, d'autres y voient l'image de la fonction de ce prêtre, c'est-à-dire qu'ils étaient des médiateurs. Et ça pourrait indiquer que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, par cet encens, une indication. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Et il n'y en a pas d'autre. Et puis la myrrhe, c'est cette résine aromatique qu'on pouvait trouver sous forme de poudre ou bien sous forme liquide. On l'utilisait pour parfumer le corps au moment des funérailles. Et quand Jésus est décédé, quand il est mort sur la croix, Nicodème est arrivé avec une trentaine de kilos d'aromates, dont la myrrhe. Et la myrrhe évoque les souffrances, évoque la mort de Jésus. Et nous savons que derrière la crèche, derrière le petit enfant dans cette maison, se profilaient déjà les souffrances et la mort de Jésus pour notre salut. Et nous voulons être reconnaissants à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Et je termine par cette troisième posture. Je vais inviter l'équipe à remonter sur l'estrade pour un dernier chant. Cette troisième posture, cette troisième attitude de la part des mages, c'est qu'ils sont en mission. En mission. En recherche, en adoration et en mission. Lorsqu'ils ont été avertis par un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils rentrent chez eux par un autre itinéraire. Hérode est bien connu pour sa cruauté et pour sa méchanceté. On dit à son sujet qu'au moment de sa mort, il a fait emprisonner des dignitaires, des gens importants, parce qu'il savait que le peuple n'allait pas pleurer sur lui, tellement il était méchant. Alors il a fait enfermer des dizaines de dignitaires en donnant cet ordre qu'au jour de sa mort, ces gens-là devaient être exécutés pour être sûr que le peuple pleurait. Quelle cruauté! Ça peut représenter notre adversaire qui est méchant, qui est malin et qui cherche à nous détruire. Arrivés dans leur pays, ils ont raconté leur voyage et ils ont rendu témoignage de leur rencontre avec leur roi, avec leur Dieu et avec leur sauveur. Une trentaine d'années plus tard, au moment de la fête de Pentecôte, les habitants de Mésopotamie arrivent à Jérusalem. Et là, sur la place publique et dans les rues de Jérusalem, on voit 120 disciples de Jésus qui parlent en langue et qui parlent des merveilles de Dieu et qui viennent confirmer la bonne nouvelle de Jésus, Actes au chapitre 2. Et le plan de Dieu, finalement, a été manifesté. Le plan de Dieu est dévoilé en Jésus-Christ et il prend forme dans la vie de l'Église avec comme mission aller dans le monde entier pour faire de toutes les nations des disciples. Les mages sont donc un modèle de foi, une foi active, une foi qui conduit à se mettre en recherche, une foi qui nous conduit à adorer Jésus et une foi qui nous conduit à accomplir notre mission. On ne va pas se quitter ce matin comme ça sans donner une réponse au Seigneur. Et j'invite l'équipe à chanter encore un chant qui va nous conduire encore dans l'adoration et dans la prière. Et nous voulons répondre au Seigneur, oui, je veux être comme les mages. Seigneur, moi aussi, je veux me mettre en recherche. Je veux te trouver, je veux te rencontrer. Je veux être renouvelé dans ma rencontre avec toi. Mais je veux aussi être redonné dans ma vie d'adorateur, dans mon adoration. Et je veux être renouvelé dans ma mission de témoin de Jésus-Christ comme ils l'ont été.
parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce t'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce t'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
Merci Seigneur parce que ta grâce ne faillit pas. Elle est disponible aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre nous. Je te prie pour ceux qui sont en recherche. Merci de les toucher aujourd'hui. Merci de leur parler. Merci de venir à leur rencontre en Christ. Merci Seigneur parce que personne n'est oublié. Personne n'est écarté. Merci pour ton amour qui franchit les barrières et qui franchit tous les obstacles pour venir à notre rencontre. Merci Seigneur, parce que tu veux aussi nous renouveler dans notre adoration et placer un amour nouveau dans nos cœurs pour toi. Tu es important Seigneur, tu es la priorité, tu es la personne centrale de notre adoration, de l'adoration de l'Église. Tu es le roi des rois et tu es le Seigneur des seigneurs. Qu'il soit le roi pour chacun et chacune aujourd'hui. Viens régner sur nos cœurs, viens régner sur nos vies. Viens prendre en charge nos vies, Seigneur,
les transformer comme tu veux le faire, et que nous puissions vivre les uns et les autres pour ta gloire, en étant des témoins aussi pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour notre entourage, pour les collègues, pour notre environnement. Seigneur, merci de nous renouveler dans notre mission et de nous permettre d'être les témoins de Jésus-Christ en faisant des disciples, en témoignant de ton amour. Bénis ton Église aujourd'hui alors que nous terminons cette année. Seigneur, merci de pardonner tout ce qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-nous là où nous avons fait fausse route. Mais ton étoile était toujours là. Ta parole est toujours fidèle. Ton Saint-Esprit nous a toujours gardés. Alors oui, Seigneur, nous regardons vers l'avenir avec confiance, en croyant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que tu sauras nous conduire individuellement et que tu sauras nous conduire collectivement à notre destination, jusqu'à notre destination. Merci de ta grande fidélité. Merci pour le témoignage des mages, pour leur foi dans leur recherche, pour leur foi dans l'adoration et pour leur foi qui manifeste la mission que tu leur avais confiée, mission que tu nous confies à nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Nous arrivons au terme de notre culte, ce dernier culte de l'année 2020. Bon dimanche à chacun. Merci encore Michel pour ce message édifiant. Comme nous dit la parole, ne serons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique ce que nous avons entendu ce matin. Donc bon dimanche à chacun et surtout prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun, sur chacune de nos familles, dans le nom de Jésus. Amen.